Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il est l'heure de retrouver Franck Ferrand sur Europe 1. Franck qui met en marche sa machine à remonter le temps. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est même vous qui l'avez mise en marche aujourd'hui Julia, parce que vous êtes en avance, vous rendez compte?
Écoutez, j'ai fait mon maximum pour que vous ayez un maximum de temps.
On commence dès 13h14, mais c'est un luxe extraordinaire. Mais oui. Alors je vous propose d'aller nous plonger dans la belle époque pour célébrer non pas l'inventeur du cinéma, mais le véritable père du spectacle cinématographique, Georges Méliès.
Georges Méliès, dont on va célébrer le 8 décembre prochain le 150e anniversaire.
Et oui, Méliès était né sous le Second Empire en décembre 1861. Ça va donc effectivement faire 150 ans. Vous allez voir que les amoureux du cinéma doivent à peu près tout à ce personnage sans équivalent.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Bienvenue à la belle époque, l'époque inspirée de Lautrec et de la Goulue, de Renoir et de la comtesse Greffel, l'époque des attentats anarchistes et des parades du Kaiser, l'époque des ombrelles à volant et des moustaches en guidon de vélo, des corsets longs à lacets et des guêtres interminables à boutonner. Cette époque hallucinante, des saucisses volantes, des pédalos à crémaillère, des chauves-souris mécaniques, des automobiles pétaradantes qu'on dépasse en marchant vite, l'époque des téléphones crachotants à manivelle et des phonographes qui crachotaient aussi, du reste, avec des pavillons, vous savez, grands comme une roue de fiacre. Je vous emmène à l'époque des lampions, des orgues de barbarie, des marchands de limonade et de sucre d'orge, de bâtons de réglisse au pied du Sacré-Cœur, des pauses de 3 heures chez le photographe et des valses à l'envers au bord de la Marne. Cette belle époque des tournées de Barnum et des succès de la femme à barbe, des exploits de Buffalo Bill à 40 centimes, demi-tarif pour les prêtres et les militaires, cette inoubliable époque des panoramas qui défilent sur les merveilles colorisées de nos comptoirs du bout du monde. Alors, cette époque, c'est celle, évidemment, des premiers pas du cinéma. Julia, si je vous dis les inventeurs du cinéma, vous allez me répondre les frères Lumière, évidemment.
C'est ce que j'allais dire.
Ben oui, sauf que une fois la machine inventée, encore faut-il lui trouver un emploi. Et ça, ça va précisément être le rôle du père véritable du 7e art, ça va être le rôle de Georges Méliès. Voilà un homme qui a tout inventé en matière de salles obscures. Alors, au moment où on n'en finit pas de s'extasier sur les exploits du Tintin de Spielberg, cela dit, j'ai adoré, hein, moi aussi, mais à cette heure de l'animation de synthèse et de la performance capture, on devrait élever des statues à Méliès. Voici ce que Louis Lumière lui-même, en 1931, alors qu'il vient d'épingler au revers de l'illustre vieillard la croix de la Légion d'honneur, voilà ce que Lumière dit. « Georges Méliès, je salue en vous le créateur du spectacle cinématographique. » Ça tient en peu de mots, mais quand vous savez l'importance que le cinéma a pu prendre depuis dans nos sociétés, vous mesurez l'importance de cette idée. Parce que s'il y a une chose à bien réaliser, c'est qu'aux yeux des frères Lumière eux-mêmes, leur invention en 1895 n'était jamais qu'un gadget de physique amusante. Ils rangeaient ça au magasin des accessoires insolites entre la lanterne magique et le kinescope. Personne avant Méliès n'avait ne serait-ce qu'entrevu les potentialités du cinéma. Alors naturellement, Georges Méliès n'est pas venu comme ça, il n'est pas arrivé par hasard, il n'est pas devenu sans cause l'inventeur du 7e art. Quand on reprend un petit peu son cursus, on se rend compte que tout dans sa jeunesse, tout le conduisait vers ça, même si ça ne se voit pas toujours au premier abord. Georges est né, vous l'avez dit Julia, il y a 150 ans, donc en 1861, il est né à Paris, aux temps heureux, en tout cas pour son milieu, heureux pour la bourgeoisie, de la fête impériale. Ça veut dire quand même, s'il est né en 1861, qu'il a 10 ans au moment du siège de Paris et des grandes privations, qu'il a 14 ans au moment de la naissance de la Troisième République, il sera d'ailleurs toute sa vie un républicain militant. Il est né avec le régime. On vit plutôt bien, vous savez, chez les Méliès. Son père possède une fabrique de chaussures de luxe. C'est pas très affriolant, mais ça permet de bien vivre. Ça permet même de se laisser vivre, ce qui est le cas du jeune Georges. Il fait des études moyennes, il a des ambitions moyennes. Il va faire son service militaire à Blois en 1881-82. Blois, la patrie du grand Robert Houdin, le maître des magiciens, l'inventeur de l'illusionnisme. Vous allez voir que je ne mentionne pas ça par hasard. En 1883, Georges a 22 ans, l'âge des frasques de jeune homme et des hésitations de jeune bourgeois. On l'envoie à Londres, au moins il pourra apprendre la langue, comme ça il perdra pas trop de temps. Le voilà vendeur dans un grand magasin londonien, au rayon des corsets, ça ne s'invente pas. En vérité, le jeune Georges en profite pour sortir le soir, pour voir du monde, pour entendre parler anglais, et tout de suite, il marque une prédilection pour le théâtre Maskelyne. C'est là que le grand magicien David Devant scie en deux ses assistantes avant de les faire disparaître dans un rideau de fumée. Évidemment, tout ça aujourd'hui on connaît par cœur, mais à l'époque, selon l'expression du moment, c'est épatant. Georges Méliès fait tout pour entrer en relation avec Devant, il passe du temps avec lui et en fin de compte, il se fait initier à la prestidigitation. Et désormais, il n'a plus qu'une idée en tête, devenir lui-même un grand magicien. C'est papa qui va être content. Lui qui voyait déjà le fiston cadre commercial, Georges rentre à Paris, il présente un petit numéro dans une brasserie de la galerie Vivienne et puis un numéro un peu plus solide au cabinet fantastique du musée Grévin. Je vous rappelle qu'on est à l'apogée des grands boulevards, notamment du boulevard des Italiens. Et en même temps, parce que la magie ne nourrit pas son homme, Georges travaille comme caricaturiste dans un journal satirique anti-boulangiste. Je vous ai dit qu'il était très républicain. Et puis un jour son père meurt. Là, il hérite, le voilà donc presque riche, sauf qu'il n'a rien de plus pressé que de revendre sa part de la fabrique familiale et de consacrer tout l'argent à quoi ? Eh bien, à l'achat boulevard Haussmann du fameux petit théâtre d'illusion de Robert Houdin, le grand maître du passe-passe.
Extrait sur Europe 1 de la bande originale du film de Michel Hazanavicius, The Artist, Franck.
Alors c'est la véritable carrière de Méliès qui commence. Il a 27 ans, Georges, à ce moment-là. Il faut l'imaginer vêtu en Monsieur Loyal, chapeau claque, habit de velours rouge et culotte bouffante blanche avec des bas de soie. Il fait disparaître des lapins, il fait apparaître des colombes, enfin vous voyez un peu le genre. D'ailleurs on aurait tort de se moquer parce que très vite les spectacles de Méliès vont se distinguer des autres par leur inventivité, par leur poésie, par leur sens très poussé, très achevé de l'esthétique. Et notamment, Georges présente sur scène toute une collection d'automates raffinés dont les gestes plus vrais que nature font surnommer leur créateur Méliès le mage, déjà, vous voyez. Et il va plus loin. Il utilise abondamment la lanterne magique et même le kinescope d'Edison qui sont, vous savez, un premier pas vers le cinéma. Un beau jour, l'heureux directeur du théâtre Robert Houdin reçoit une invitation rédigée en termes sibyllins pour assister à quelque chose d'amusant, semble-t-il, à deux pas en plus, puisque ça se passe au Grand Café boulevard des Capucines. Alors Georges s'y rend, on le fait descendre avec tous les invités au sous-sol de l'établissement. Ce sont les frères Lumière qui reçoivent. Georges observe d'un œil intrigué le drôle d'appareil à engrenage avec des manivelles qui est là, qui occupe le centre de la pièce. On fait soudain l'obscurité, et là, c'est le choc. Sous les yeux éberlués du public, notre amoureux de magie voit l'écran s'animer, apparaît une rue de Paris, avec ses fiacres, ses promeneurs, et puis un train qui s'avance, plus vrai que nature. On dit que plusieurs personnes ont un mouvement de recul en le voyant approcher sur l'écran. Et puis cette scène de l'arroseur arrosé qui va faire le tour du monde. Georges est ébloui, subjugué, il est emballé. La voix lui manque, son regard s'est brouillé de larmes. Là, ce qu'il vient de voir l'a bouleversé si profondément qu'à compter de 7 minutes, plus rien pour lui ne sera jamais comme avant.
Franck Ferrand sur Europe 1. au cœur de l'histoire.
Franck qui rend aujourd'hui hommage sur Europe 1 au père du 7e art, le fantasque Georges Méliès.
Qui a 150 ans, qui va les avoir là le 8 décembre. Alors c'est donc dans un salon au sous-sol du Grand Café que Georges Méliès, il a donc 33 ans à ce moment-là, c'est là qu'il vient d'avoir la révélation de sa vie, disons-le. Il fait partie de ces quelques privilégiés à avoir pu assister, en ces temps de grâce 1895, à la première projection des Frères Lumière. Et il en est ressorti donc émerveillé. C'est peut-être d'ailleurs la plus grande qualité de Méliès, c'est qu'il a cette capacité, cette aptitude à s'émerveiller comme un enfant ou comme un sage. Je vous ai dit que Méliès était passionné de magie. Tout de suite, il imagine les parties incroyables qu'il peut tirer de l'invention des Frères Lumière pour ses numéros fantasmagoriques du petit théâtre Robert Houdin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il propose aux Frères Lumière, par l'intermédiaire de leur père, de leur acheter leur machine. « Ah non, non, c'est pas à vendre. Oh, je vous en prie, ça me rendrait tellement service. »« Non, je regrette, » dit le père Lumière. « D'ailleurs, entre nous, jeune homme, ça vaut mieux pour vous, parce que c'est bien joli cet engin-là, ce cinématographe. Mais ça n'est qu'une curiosité scientifique. Ça ne peut pas amuser longtemps le public. Ce n'est pas avec ça que vous gagnerez votre vie, croyez-moi. Le cinéma, ça ne rapportera jamais un sou à personne. » Il est perspicace, le père Lumière. Il porte bien son nom. En attendant, notre Georges, lui, ne s'avoue pas vaincu. Puisque ses Lyonnais ne veulent pas lui vendre leur machine, mais il va s'en passer. Il a bien observé comment ça fonctionnait, et comme toutes les grandes idées, c'est somme toute assez simple, donc il va essayer. Après tout, il ne manque pas de jugeote, il est habile de ses mains, c'est son côté touche-à-tout, vous savez. Il va fabriquer son propre appareil et ça marche. Georges, émerveillé plus que jamais, peut mêler des projections cinématographiques à ses spectacles de magie. Vous imaginez un peu le succès. Cela dit, jusqu'ici, il s'agit de projections bien sages, hein, des scènes de ville, des scènes de chant. C'est la vie quotidienne qu'on filme à cette époque. La magie est tout entière dans le caractère animé de l'image. Mais déjà, ce n'est pas rien. Vous réalisez que depuis des millénaires, on est habitué à voir en représentation des images dessinées qui sont fixes. Alors la photographie, déjà un demi-siècle plus tôt, ça a fait progresser les choses. Mais si maintenant les photos se mettent à s'animer comme dans la vie, pour les gens de l'époque, c'est tellement extraordinaire que ça les fait rire. Une sorte de rire de jubilation, d'excitation, si vous voulez. Seulement, c'est comme tout, le public va finir par s'habituer, pour ne pas dire par se lasser. Méliès en est conscient, bien sûr, seulement quoi faire? La réponse va venir toute seule, par hasard, et même, comme beaucoup de grandes découvertes, par erreur. Un beau soir, Georges est avec le technicien en train de visionner une scène de rue qu'ils ont mise en boîte quelques jours plus tôt à la place de l'Opéra. C'est toujours le même quartier, hein, vous remarquerez, on est toujours autour des grands boulevards. Seulement, à l'enregistrement, la manivelle s'est bloquée. Et vous savez qu'à l'époque, on chante sans brémeuse, hein, là, pour tourner au bon rythme les manivelles. La manivelle s'est bloquée. Et ça fait qu'au moment de la projection, l'omnibus qu'on était en train de filmer se transforme en corbillard. « Oh, flûte !» dit le technicien, « il va falloir tout refaire !» Méliès, lui, n'est pas de cet avis. Ce qu'il vient de voir le réjouit hors de toute mesure. Il trouve ça merveilleux. « Mais dites donc, mon vieux, c'est épatant cette affaire. Vous aviez déjà vu ça, vous, un omnibus qui se transforme en corbillard ?» Dans l'esprit de Georges, une page vient de se tourner. Au premier rang de ses marottes, le cinéma va maintenant remplacer la magie, ou plus exactement, c'est à travers le cinéma que ce grand magicien va éblouir le public. Un nouveau Méliès vient de naître. Le Méliès, inventeur du 7e art. Tout de suite, dans la cour de son petit théâtre, vous savez qu'à l'époque, on a besoin pour filmer de la lumière du jour, eh bien Méliès, dans sa cour, tourne des petits sketchs, des numéros de magie, où les trucages ne sont plus tellement réels, ils sont fabriqués par la prise de vue, par le montage de la pellicule. Le premier grand succès de Méliès s'intitule « Escamotage d'une dame chez Robert Houdin ». Vous voyez le genre. Et puis très vite, on va passer à la vitesse supérieure. Méliès met en scène des parodies des films... vous savez, à l'époque, on n'appelle pas encore ça des films, on dit des vues. Donc, il parodie les vues des Frères Lumière en y intégrant toutes sortes de trucages à sa façon. Et ça, forcément, le public en raffole.
Sur Europe 1, d'Histoire sans parole, Franck.
Alors, Bruno Kras, le monsieur cinéma d'Europe 1, nous a rejoint dans ce studio. Et avec lui, dans un instant, on va revenir sur les apparitions, disparitions, substitutions, les trucages, les inventions merveilleuses de Méliès. Ce qu'il y a de très important dans le pas franchi par Georges Méliès au tournant du siècle, c'est que maintenant, on n'en est plus à filmer des scènes banales pour le seul plaisir de voir fonctionner la machine. On met en scène des fictions qui sont créées exprès pour ce nouvel appareil. Et bien sûr, Méliès va puiser dans l'histoire, au passage. Il va tourner l'affaire Dreyfus, puis Jeanne d'Arc. Il puise dans les classiques aussi, puisqu'il tourne Le Malade Imaginaire, dans La Fantasmagorie, ça on va y revenir dans un instant, ce sera notamment Le Royaume des Fées. Or, notre petit génie du cinéma naissant n'a pas tardé à comprendre qu'il lui faut pour réaliser ses vues un grand atelier vitré, une sorte de serre avec une scène de théâtre protégée mais bien exposée à la lumière du jour. Cet atelier spécial, Georges Méliès le fait construire de toutes pièces à Montreuil-sous-Bois. Et c'est tout simplement, c'est le premier studio de cinéma jamais créé. Ce studio fait 17 mètres sur 7, avec 5 mètres sous plafond, enfin je devrais dire sous verrière. La scène est vaste, bien équipée. Il y a des remises pour les décors que Méliès peint lui-même sur de vastes toiles. Après tout, il a été dessinateur de presse. Il a fait installer des loges pour les artistes. Attention, ce ne sont pas encore des acteurs professionnels, les comédiens regardent le cinéma à l'époque avec beaucoup de condescendance. Il faudra des années pour qu'une gloire de la scène accepte d'aller jouer devant une caméra. Non, les acteurs de l'époque, ce sont plutôt des amateurs recrutés dans la rue, parfois des artistes de music-hall ou des danseuses. Tout ça reste un peu artisanal. Il n'empêche, Méliès multiplie les prises de vue. Elles sont de plus en plus réussies, de plus en plus audacieuses. De 1896 à 1912, le créateur du spectacle cinématographique va tourner comme ça quelques 4000 sujets, 4000 vues, comme on disait. Le grand Méliès, qui a fondé la première société de production et l'a appelé encore une preuve d'avant-gardisme, Starfilm, vous avouerez que ça faut l'inventer, ça quand même, en 1900. Méliès a une nouvelle idée, qui est une idée très forte sur un plan commercial. Il va proposer au public des actualités filmées. Alors évidemment, à l'heure de l'info en continu, ça nous fait un peu sourire, mais à l'époque, c'est une révolution incroyable. Seulement, vous voyez un peu à quoi ressemblent les caméras. C'est des espèces de grosses cabanes en bois, qui sont non seulement très encombrantes, mais très bruyantes. Donc, il est très difficile d'aller filmer des événements en direct. Eh bien, qu'à cela ne tienne, puisqu'on peut pas filmer les événements sur place, on les reconstitue en studio. Et voilà Méliès qui filme dans un bassin à Montreuil une maquette de bateau censée représenter le naufrage d'un navire de guerre américain pendant le conflit entre l'Espagne et les États-Unis. Les images font le tour du monde. Ensuite, il va reconstituer en partie sur maquette l'éruption du Mont Pelé à la Martinique, émotion encore garantie. Son chef-d'œuvre dans le domaine, ce sera le couronnement du roi Édouard VII. Attention, le roi, c'est un figurant du Châtelet. D'ailleurs, le jour, il est garçon de l'avoir au Kremlin Bicêtre, ce monsieur. Et puis la reine, c'est une danseuse des Folies Bergères, oh, comme aurait dit Fedot, ou plutôt comme il aurait fait dire à la môme Crevette, et allez donc, c'est pas mon père. Le film de cette cérémonie est donc tourné avant l'événement, afin de pouvoir être développé, monté, etc., et diffusé juste après le sacre. Méliès lui-même, d'ailleurs, va à Londres pour filmer en réel l'entrée du roi dans l'abbaye. Parce que ça, on peut quand même le montrer en train d'entrer dans l'abbatiale de Westminster. Et le soir même, par un tour de force extraordinaire, le film du couronnement est présenté à l'Alhambra de Leicester Square, présenté à un public complètement ébahi. Le succès est tellement retentissant que quelques jours plus tard, Méliès et ses acolytes sont accueillis par la famille royale à Windsor pour une projection privée qui amuse beaucoup cette bonne nature d'Édouard VII. Mais je me reconnais Lancetil en désignant le fameux blanchisseur. Et à la fin, quel merveilleux appareil que le cinématographe, monsieur Méliès, dit-il. Il a même réussi à représenter des scènes qui n'ont pas eu lieu. En effet, le protocole avait effectué des allègements de dernière minute et finalement la cérémonie qui a été fixée sur la pellicule n'est pas celle qui a eu lieu réellement pour le couronnement. Mais ces films d'actualité, de même que les condensés de classiques, les tableaux d'histoire, ce n'est pas ce que Méliès préfère tourner. Lui est un illusionnisme dans l'âme. Il aime ses fantasmagories bourrées d'effets visuels. Il s'amuse à farcir Barbe Bleue ou Cendrillon de trucages à couper le souffle, en tout cas pour les spectateurs de l'époque. Or, en 1902, si vous me passez l'expression, Méliès va mettre le paquet. Il réalise ce qui va sans doute rester comme son chef-d'œuvre, Le Voyage dans la Lune, une fantaisie fantaisie épique inspirée de Jules Verne et de Wells. Les décors sont sublimes, c'est bourré de machines étranges, il y a des figurants, des travelling dans tous les sens, une lumière là encore. Et puis, le voyage dans la Lune, c'est, on peut dire, le premier spectacle, le premier grand spectacle cinématographique. Ça dure 16 minutes, c'est beaucoup. Les films mesuraient habituellement 125 mètres, là ça fait une bobine de 600 mètres quand même. Plus tard, Méliès sera le premier à réaliser des productions de 800 voire de 1000 mètres. Ça crée des jalousies tout ça, bien entendu. Autour de lui, les professionnels grognent. Il n'existe pas encore à l'époque de salles de cinéma fixes. Les films sont des attractions foraines qui sont diffusées dans les baraques de foire. Ce qui fait que plus les films sont courts, et bien plus on fait rentrer de monde et plus ça permet de gagner de l'argent. Alors là, l'autre avec son voyage dans la Lune, finalement, il est en train de désorganiser le métier.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck qui célèbre aujourd'hui sur Europe 1 le véritable père du spectacle cinématographique, Georges Méliès.
Et oui, Georges Méliès, dont on célébrera le 150e anniversaire de la naissance, ce sera le 8 décembre prochain. Alors, on est arrivé au moment où pour Méliès, c'est le temps des grandes fantasmagories, le voyage à travers l'impossible, les 400 faces du diable, 20 000 lieues sous les mers. Seulement, vous savez, le public se lasse toujours assez vite. Et Méliès, surtout, n'est pas un homme d'affaires. Il préfère l'art à l'argent. Il refuse les propositions pourtant très alléchantes de plusieurs investisseurs, les mêmes qui feront la fortune de Gaumont, de Pathé, etc. On peut dire que là, il y a un train que Georges n'arrive pas à prendre. La Grande Guerre passe là-dessus, les films sont interrompus. Le studio de Montreuil-sous-Bois est transformé en cabaret d'opérette. Là, Méliès, on peut le dire, perd beaucoup d'argent. Il en est réduit à vendre les copies de ses films à des chimistes pour faire, tenez-vous bien, des talonnettes. Ce qui fait que nos poilus dans les tranchées vont marcher sur des kilomètres et des kilomètres de films merveilleux perdus à jamais. La fortune, disons-le, a tourné le dos à Georges Méliès assez tôt, somme toute. En 1923, toutes ses installations sont vendues aux enchères et pour survivre, il se verra contraint d'aider sa seconde épouse à tenir un petit kiosque de jouets et de sucreries dans la gare Montparnasse. On est dans cette époque des années folles, vous voyez. Il ne paraît pas aigri pour autant, Georges Méliès. Il continue d'afficher, comme il l'a fait toute sa vie, un grand sourire, beaucoup de jovialité. C'est en 1929 qu'un professionnel de cette industrie qui est devenu le cinéma à l'époque, une industrie qu'il est devenue sans lui, hein, sans Méliès, c'est en 29 que ce professionnel le reconnaît comme ce grand précurseur qu'il est dans sa boutique de joujoux. Alors là, quand même, plusieurs sommités vont s'en mêler, dont Louis Lumière, et de sorte que, grâce à la générosité de la profession, Méliès finira sa vie quand même paisiblement. Il meurt en 1938 dans la maison de retraite du cinéma au château d'Orly. Déjà à cette époque, ses films sont considérés comme mythiques, ne nous y trompons pas. Du moins, tous ceux qui ont survécu au désastre, à la destruction à grande échelle. Et c'est la dernière pirouette de cette existence de magicien. Ce sont les copies illégales de ces films qui avaient accéléré la ruine de Georges Méliès. Eh bien, ce sont les mêmes copies illégales qui nous permettent à nous aujourd'hui de conserver un certain nombre de témoignages d'une œuvre qui, sans cela, aurait presque entièrement disparu. Bruno Crass est donc avec nous dans ce studio. Bonjour Bruno Crass.
Bonjour.
On appelle Georges Méliès le magicien de Montreuil. Il était magicien au propre comme au figuré. Est-ce qu'on peut dire qu'il a tout inventé ?
Oui et non, il a tout inventé techniquement, comme vous l'avez raconté Franck, sont les frères Lumière qui ont inventé le cinéma. En fait, sont les frères Lumière et en même temps c'est Thomas Edison.
Et oui, c'est ça. Parce Edison, que... c'est le kinescope, faut peut-être en dire un
voilà,
mot
le,
de ça.
Voilà, le kinétoscope et le kinétographe, en fait, Edison, qui était un grand savant, qui avait inventé le phonographe, a vu un jour arriver un créateur anglais, un inventeur anglais qui s'appelait Muybridge Bridge, et qui lui a montré son invention. Lui faisait un fusil photographique et il prenait comme ça des photos et en accélérant les photos, ça donner l'illusion du mouvement. Et Edison, qui était un malin, qui avait du génie, s'est dit on peut aller plus loin et il a inventé un appareil. La grande différence, et c'est pour ça que, tant mieux pour nous, on ramène ça aux frères Lumière, c'était avant les frères Lumière, c'était en 1894. Sauf qu'on pouvait voir déjà des bouts de films, des petits films, mais dans une boîte avec un œilleton.
Il fallait coller l'œil à l'œilleton.
Voilà, on était unique spectateur. Alors que, comme vous l'avez dit, le 28 décembre 1895, au sous-sol du Grand Café dans le Salon Indien, là, il y a eu, je crois, 33 personnes et il y a eu la première projection du cinéma en public. Donc, ce sont eux les inventeurs. Mais on pourrait dire.
Au sens technique du mot.
Au sens technique du terme. On pourrait dire que les frères Lumière, eux, ils ont tout de suite assez vite envoyé des opérateurs à travers le monde. Ce sont les inventeurs du documentaire. Voilà. Parce qu'on a eu le droit à des fêtes, à des couronnements. C'était des prises de vue réelles. Le grand talent de Méliès, c'est qu'il a inventé la fiction au cinéma, le spectacle cinématographique. Parce que comme il était complètement amoureux de la prestidigitation, de la féerie, qu'il faisait ça déjà dans son théâtre, il adorait le faire, il s'est dit, mais c'est extraordinaire, il a eu cette idée incroyable de dire, mais pourquoi je n'allierais pas les deux, quoi? Pourquoi on ne ferait pas une sorte d'atelier théâtre, photo, cinéma, ce qu'il a fait dans son jardin de Montreuil, et pourquoi je ne profiterais pas de mon savoir-faire en magie pour épater les gens et pour faire des choses miraculeuses.
On peut dire que ce qui l'avait porté vers l'illusionnisme, vers la prestidigitation, c'était la volonté de souffler les gens, de les épater, comme on disait à l'époque. Il aimait ça, il aimait, je pense, lire dans le regard des spectateurs l'émerveillement, la surprise, la sidération. Et il a vu la machine cinématographique plutôt comme un moyen de continuer à faire de la magie. Finalement, il n'est pas fasciné d'abord par le cinéma, Georges Méliès. Il est fasciné parce que le nouveau cinéma va permettre d'apporter à ces spectacles d'illusionnisme.
Absolument. Et c'est peut-être ça qui était la limite au bout d'un moment, dans les années, au début des années 1910, et qu'il l'a un peu perdu, puisque pendant ce temps, le cinéma évoluait, et à Hollywood notamment, le cinéma avait commencé d'abord sur la côte est à New York, puis il était parti en 1910 par là vers Hollywood, et là il y avait les westerns, il y avait des histoires.
Là c'est le début vraiment de l'industrie du cinéma.
Voilà, il y avait les Max Sennett, et puis il y a eu Chaplin, etc. Lui, il en était resté, si vous voulez, à son plan fixe, c'est-à-dire que dans son atelier de théâtre de Montreuil, il y avait la cabine de projection, il y avait le théâtre, et avec tout son attirail, et c'était un sacré créateur parce qu'il était à la fois producteur, scénariste, costumier, truqueur, etc., avec toutes les petite trappe qu'il y avait dans le théâtre, les appareils pour des treuils pour prendre un acteur et le transporter vers le ciel. Avec tout ça, il faisait un spectacle fantastique, en effet, qui émerveillait les gens. Et c'était ça son grand talent. Et puis, son talent, et vous l'avez dit, c'est aussi qu'il a été inventeur des effets spéciaux. Quand il a vu ce fameux omnibus Place de la Madeleine que la pellicule s'est arrêtée,
se transforme en corbillard,
il en a remis une autre à l'écran, d'autres auraient dit oui, bon, d'accord. Lui, il s'est dit mais c'est donc du trucage. Et après, il a peaufiné ça, il était l'inventeur du montage. Il a par exemple filmé des scènes avec un cache, donc il filmait qu'une partie de la scène, et puis il allait filmer une autre scène avec le contre-cache, et il mettait, c'est l'inventeur de ce truc-là, c'est l'inventeur de la surimpression, c'est l'inventeur aussi du montage, et il arrivait à faire des choses incroyables. Par exemple, il faut imaginer la scène, parce que c'était un monsieur drôle, il se mettait dans une tout habillé de noir dans une caisse noire, donc on voyait que sa tête sur un fond noir, et après cette caisse il la faisait avancer vers la caméra, donc on voyait la tête grossir, et puis après il la faisait exploser. Donc il aimait beaucoup les décapitations, lui.
On dit toujours que
beaucoup de trucs comme ça.
Quand il y a de nouvelles inventions, on va presque au bout des potentialités de l'invention dès les premiers mois, et puis qu'ensuite il faut de longues années pour les redécouvrir, les peaufiner et les faire advenir. Mais c'est exactement ce qui se passe avec Méliès. Quasiment tous les types de trucage utilisés, j'allais dire jusqu'à nos jours, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on dispose maintenant de moyens très exceptionnels. Quoique, presque tous les trucs utilisés dans le cinéma jusqu'à nos jours, il les avait lui-même déjà découverts.
Absolument, mais c'est ce qu'on dit souvent, nous les amoureux du cinéma, sans être méchants pour les réalisateurs actuels, parce qu'ils font des très belles choses, on dit souvent que tout a été inventé, vous savez, entre 1895 et 1930, David W. Griffiths aux États-Unis, tout a été inventé. Et Méliès, il faut lire par exemple tout un texte qu'il a fait sur les ficelles du métier, où quand on lit ça, on se dit mais c'est extraordinaire. Il raconte la production, il explique au lecteur pourquoi la séance de cinéma coûte cher, il explique que c'est pas facile de filmer quand la lumière du jour n'est pas là, ou quand il y a trop de lumière du jour. Et dans ce fameux théâtre-atelier de Montreuil, il avait fait des trucs assez extraordinaires, parce qu'il avait pris du calque à dessin pour pour pouvoir
filtrer
la lumière. Ouais. Et avec un volet, il ouvrait quand il avait besoin de lumière, il refermait en mettant ses caches quand il avait besoin d'une lumière tamisée. En fait, oui, il a tout inventé.
Parce qu'on aurait aimé le visiter, cet atelier de Montreuil.
Mais en tout cas, on peut voir ses films, parce qu'il y a des DVD qui sont édités.
Bien sûr.
Je crois qu'il y a 200 films de Méliès qui ont été conservés, en tout cas qu'on peut voir dans des DVD. Et c'est vrai que c'est assez magique. Et c'est drôle parce que en ce moment, je dirais pas qu'on revient à ça, mais il y a des films qui font penser à ça. Le dernier film de Marjane Satrapi, de Vincent Parrono, Poulet aux prunes, c'est un film aussi de création, comme ça, avec des vrais personnages, mais sur des contours, sur des décors dessinés, sur des espèces d'univers de rêve. The Artist, qui est en train de cartonner en France et qui va sans doute aller aux Oscars, non pas en tant que meilleur film étranger côté français,
carrément,
mais en tant que film tout court.
Voilà.
Et les frères Weinstein, qui sont des grands producteurs de cinéma et des distributeurs de cinéma, sont là pour booster le film. Et Dujardin est en train de faire des allers-retours là-bas aux États-Unis, à Los Angeles. Donc, il y a une espèce de parfum là, en retour vers.
On aime retourner vers
cette fantasmagorie qu'avait inventé Méliès.
J'en profite pour inciter nos auditeurs à aller visiter le musée de la Cinémathèque française, qui est merveilleux. On parlait de kinétoscope tout à l'heure, d'appareils, de prises de vue, etc. C'est fascinant à visiter, hein, vraiment. Et encore, ce n'est qu'une très très petite partie de la collection de la Cinémathèque qui est exposée au public, mais il faut aller voir ça. Et puis, je voulais vous dire que nous avons en ligne Madeleine Maltet Méliès, qui est la petite fille de Georges Méliès. Nous la retrouvons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvère, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ses 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour. Blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément. Des masses cherchent, des masses se trouvent timidement.
Le cinématographe de Boris Vian, Franck sur Europe 1.
Et nous sommes donc toujours en compagnie de Bruno Kras, qui est le critique cinéma d'Europe 1, que connaissent tellement bien tous nos auditeurs, et en compagnie au téléphone de Madeleine Maltet Méliès. Bonjour Madeleine Maltet Méliès.
Bonjour.
Vous êtes donc la petite fille de Georges Méliès, que vous avez connu du reste.
Oui, j'ai vécu avec lui jusqu'à l'âge de 15 ans.
Eh oui.
Et c'est lui qui m'a élevée et qui m'a transmis son optimisme, sa curiosité.
Il avait toujours
un homme extraordinaire.
Il avait toujours ce regard joyeux sur la vie. On dit qu'il était d'une bonne nature, en fait.
Ah oui, tout à fait. Et là, je suis très heureuse qu'on fête le 150e anniversaire de sa naissance. Le 8 décembre, à la Cinémathèque française, on lui consacre une journée entière.
Alors, j'ai sous les yeux une photographie qui le représente dans sa petite boutique, justement, de la gare, là, la boutique où on vendait des confiseries et des jouets. Vous avez connu ça, vous?
Oui, j'étais avec lui.
Oui. C'est extraordinaire.
Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir retrouvé ses films, parce que quand il est mort, il n'y avait que 8 films. Et maintenant, nous en avons retrouvé 220 sur les 500 films qu'il avait tournés.
Alors, ces films, pour la plupart, c'est grâce à des copies de contrebande que vous avez réussi à les retrouver, à les reconstituer.
C'est-à-dire qu'au début, comme j'étais la secrétaire de l'Anglo à la Cinémathèque, j'ai retrouvé des collectionneurs et surtout des forains qui avaient encore des vieux films. Et puis ensuite, nous avons retrouvé tout un stock de films en Amérique, dans une collection Schlesinger qui les avait pris chez Universal, qui les avait rachetés en Amérique.
Ces films, est-ce qu'il arrive encore qu'on les projette aujourd'hui et qu'il faudrait peut-être monter une sorte de festival des films de cette époque? Est-ce que vous avez aujourd'hui des diffusions comme ça, des projections?
Nous faisons énormément de projections, d'abord à l'étranger, où moi je n'ai jamais cessé depuis 60 ans les films de mon grand-père dans le monde entier. Là, nous allons faire paraître un DVD avec Studio Canal, avec des films inédits à la fin du mois de novembre. Il y a une réédition de mon livre « Georges Méliès, l'enchanteur » qui sort en même temps.
Ça, c'est bien.
Et le film de Scorsese,
tout ça pour le...
qui raconte une partie de la vie de Méliès, sa vie à la gare Montparnasse.
Tout ça pour le 150e anniversaire de sa naissance, évidemment.
Oui.
On a même vu projeter le voyage dans la Lune, je crois que c'était au Festival de Cannes, si ma mémoire est bonne, on a vu ça.
Le voyage de la Lune que vous avez vu, qu'on projette en ce moment, c'est plutôt une recréation, c'est une interprétation de l'œuvre de Méliès, ça n'est pas l'œuvre de Méliès
c'est
lui-même.
C'est une sorte d'hommage, en quelque sorte.
C'est un hommage.
Bruno Kras,
Madeleine, j'avais une question à vous poser, puisque vous avez le bonheur d'avoir connu votre grand-père. Est-ce qu'il était un peu amer par rapport à ce qui lui arrivait, et lui qui avait créé tant de choses et qu'à la fin, ça ne marchait pas trop bien?
C'est-à-dire qu'il était toujours de bonne humeur, apparemment. Il m'avait élevée en disant « ne te retourne pas et si tu veux être aimée, sois aimable ». Et il est vrai que par contre, dans ses lettres, quand il écrivait à ses vieux amis, il était un petit peu amer de l'oubli dans lequel il était. Mais on l'avait redécouvert et il a eu une fin de vie heureuse parce qu'il était fêté et très, très, très invité au Cercle du cinéma, à la Cinémathèque.
On l'a redécouvert en fait quelques années avant sa mort, c'est bien ça?
On l'a redécouvert en 1929.
Oui, voilà.
Et ça... il a fait ensuite un grand gala à la salle Pleyel, et après il a donné des conférences. Et sa dernière conférence, c'était au moment de l'exposition de 1937 sous la Tour Eiffel.
Mmh. Est-ce que vous vous rappelez des tours de magie qu'il a pu faire quand vous étiez petite? J'imagine que ça devait être extraordinaire d'avoir un grand-père.
Ça m'agaçait prodigieusement.
Pourquoi? Vous n'aimiez pas ça en fait?
C'est-à-dire qu'à force d'avoir des cigarettes qui me sortaient des oreilles ou du nez, ça ne m'amusait plus du tout.
Merci infiniment, Madeleine Maltet-Méliès. Vous nous disiez qu'un DVD va donc être édité, qui sera disponible avec un certain nombre de films inédits de votre grand-père. Merci de ce témoignage magnifique. Finalement, vous voyez comme on arrive à renouer comme ça la chaîne du temps. C'était un beau moment. Merci beaucoup. Bruno Kras, est-ce qu'aujourd'hui, vous nous avez dit qu'un certain nombre de cinéastes tout à fait récents s'inspiraient, revenaient, redonnaient vie en quelque sorte à ce cinéma des premiers instants. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a encore un public pour s'intéresser, j'allais dire comme des collectionneurs, comme des cinéphiles des premiers moments, pour s'intéresser à cet archéo-cinéma, à ce cinéma muet?
Moi, je pense que c'est vraiment, quand on aime le cinéma, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce cinéma-là. Et d'ailleurs, ce qu'il y avait de très joli et de très élégant et de très tendre même dans la démarche de Michel Hazanavicius pour The Artist, c'est qu'on sent, et c'est tout à son honneur, que c'est un amoureux de ce cinéma, des racines. On ne peut pas être un réalisateur ou un cinéphile averti et sincère sans passer par cette case-là. Et on peut redécouvrir comme ça des merveilles. Alors, évidemment, il ne faut pas être langue de bois. Il y a des films qui sont maintenant un peu passés de mode, qui ont mal vieilli dans l'histoire des débuts, dans les films du cinéma. Mais ce qu'il y a de très beau dans The Artist, et au moins, moi je dis que toute la jeune génération peut aller voir le film de Hazanavicius avec Dujardin, parce qu'il respecte tout à fait les codes du cinéma muet, il ne s'en moque pas, il ne pastiche pas, comme il faisait les pastiches dans SS 117. On sent une admiration très grande pour ce cinéma en noir et blanc, avec des superbes décors, avec les producteurs de l'époque, avec les machines de l'époque. Il le fait, mais il le fait de façon à ce que ce ne soit pas ennuyé aujourd'hui, avec des clins d'œil, avec un humour et avec une tonicité qui a peut-être plus maintenant qu'on regarde ces vieux films. Mais oui, moi je pense que ça reste important, et encore aujourd'hui, on sent, vous savez, quand on voit un film comme Amélie Poulain de Genet, on sent une inspiration comme ça, un peu lanterne magique, un peu cinématographique.
Oui, avec tous les filtres,
les mouvements, et les gens aiment ça. On dit qu'on va vers la mode du documentaire, on parle beaucoup des faits divers qui sont
recréés à l'écran. Oui, la vidéo a imprégné le cinéma.
Absolument. Mais les gens sont toujours enchantés, au sens propre du terme, quand on retrouve la magie du cinéma, la magie qu'avait trouvé Méliès.
Du reste, Méliès l'Enchanteur, c'était effectivement le titre de cette biographie de Georges Méliès par sa petite fille. Une biographie dont elle vient de nous dire qu'elle est également rééditée. Donc Méliès est à l'honneur, tant mieux. Je suis ravi qu'on reparle de lui. J'ai dans les mains un ouvrage qui vient d'être publié chez François Bourin, qui s'appelle « L'histoire de France racontée par le cinéma ». Alors ça, c'est différent. Ce sont un certain nombre de nos grands films que moi je regarde jusqu'à la corde, j'allais dire, que j'ai tous vus à peu près 50 fois et qui nous raconte l'histoire de France. C'est un livre de Dimitri Casali et Céline Batias. Très agréable à feuilleter parce qu'on retrouve à travers les affiches, à travers des photos,
oui,
de tournage,
des visiteurs jusqu'aux promeneurs, promeneurs du Champ de Mars. C'est toute l'histoire du, voilà, toute notre histoire est dans les films.
Et puis, puisque j'ai juste un tout petit moment pour le dire, je profite de l'occasion pour vous signaler qu'aujourd'hui s'ouvre le Salon international du patrimoine culturel. Alors pendant très longtemps, nous allions sur place, nous nous déplacions, c'était l'époque des émissions du dimanche après-midi, au Carrousel du Louvre pour évoquer toutes les merveilles de ces artisans d'art qui se réunissent chaque année. Là, ça commence donc ce soir, c'est inauguré ce soir et c'est à partir de demain, vendredi, samedi, dimanche, donc jusqu'au 6 novembre au Carrousel du Louvre, ce Salon international du patrimoine culturel. Merci beaucoup Bruno Kras de nous avoir fait rêver avec ces débuts du cinéma. Finalement, le cinéma est bien un art, c'est bien le 7e art et il doit être considéré dans sa globalité, si je puis dire.
Absolument, et ça marche toujours très bien.
Merci beaucoup.